Bonjour Gérard Filhoche.
Bonjour.
Gérard Filhoche, anciennement inspecteur du travail, vous êtes aujourd'hui directeur de la publication de la revue Démocratie et Socialisme. Vous avez 60 ans de militantisme dans la peau, militantisme politique et syndical, combattant de toutes les batailles sociales, grand défenseur de l'unité à gauche, du rassemblement de toutes les gauches. Vous êtes une personnalité définitivement optimiste, combative et engagé. Vous avez écrit pas loin d'une quarantaine d'ouvrages et le dernier s'appelle « La Révolution des œillets, Portugal 1974 » et a été publié aux éditions Atland. C'est un livre dense, assez original par son contenu, qui est l'un des rares, car il n'y a pas tant d'ouvrages que ça en France et en français, sur le dernier processus révolutionnaire que l'Europe a connu. C'était le 25 avril 1974 à Lisbonne. Et c'est un livre, plus encore que sur la Révolution des œillets, c'est un livre sur l'irruption du peuple dans l'histoire. C'est un ouvrage sur une éruption populaire qui a eu lieu au bout de l'autoroute du Sud, dans le sud-ouest de l'Europe, il y a 50 ans. C'est le peuple que vous avez donc décidé de mettre au cœur de votre ouvrage. De la Révolution des œillets, vous tirez aussi des enseignements que vous nous présentez dans ce livre, car effectivement, vous souhaitez que ce passé portugais nous soit utile aujourd'hui en France. Ma première question est très simple. Pourquoi ce livre ? Pourquoi Gérard Filhoche a-t-il décidé d'écrire un livre sur la Révolution des œillets ?
D'abord parce que je suis un militant de mai 68. Si je milite si longtemps, depuis 60 ans, c'est à cause de mai 68. Parce qu'on apprend dans une crise révolutionnaire ce qu'était mai 68. Comment se transforme la conscience de millions de gens ? Les gens apprennent plus en 3 jours qu'en 3 semaines et en 3 semaines qu'en 30 ans. Et donc on voit comment se transforme l'ensemble du salariat, de ceux qui bossent tous les jours, qui subissent l'exploitation et qui d'un seul coup disent stop et se mettent en mouvement. Et c'est ce qui m'a donné l'optimisme dont vous parliez, et merci d'en avoir parlé comme ça. Donc voilà, on est en 74. Le Portugal, en fait, je ne connais pas vraiment. C'est un petit pays avec une dictature épouvantable. Je crois que j'ai croisé Mario Soares dans une réunion à Rome en 1971. Je n'ai pas dû faire une énorme attention à lui parce qu'on cherchait toujours les endroits où il y avait des explosions révolutionnaires et le Portugal était une tâche malheureusement horrible où cette dictature perdurait depuis 40 ans. Et il a fallu que, un peu de hasard, c'est que je suis un militant à Rouen, Normandie, et j'avais un ami qui s'appelait Dominique Pouchin, et qui était devenu le correspondant du Monde. Et le Monde l'a envoyé avant le 25 avril 1974 au Portugal. Son récit dans ma mémoire, c'est en gros, on lui dit qu'il y a des mouvements dans l'armée, mais on ne sait pas trop quoi. Et il va se trouver dans un café à Lisbonne, dans le fond d'une salle de café un peu obscure, avec des militaires qui ont des lunettes noires, et qui lui disent que, bon, ils vont bientôt prendre le pouvoir. Vous êtes correspondant du Monde, vous n'êtes pas forcé de les croire. Il semblerait que parmi eux, il y avait Mélo Antounès. Et qu'il lui disait donc la vérité, et que Dominique Pouchin est revenu, a fait un papier, mais prudent, pas du tout certain qu'un 25 avril pouvait arriver avec une chanson. Mais quand il y a le 25 avril qui commence, le Monde lui dit « mais tu y retournes ». Donc il retourne comme correspondant, il va suivre la révolution portugaise pendant pratiquement 18 mois, quoi. Il est à Lisbonne. Il va faire le correspondant, les principaux articles de toute cette période, la principale information vient de lui. Et je vais donc avoir la chance, parce que c'est mon pote, de discuter avec lui, de correspondre avec lui, et il va m'éveiller sur tous les premiers mouvements. Parce qu'au début, comme vous savez, vu de loin, c'est une révolution d'opérette, c'est une révolution de palais, c'est quelque chose venu d'en haut. Et il va falloir du temps pour que des millions de gens de par le monde voient qu'en fait c'était des millions de Portugais qui se mettaient en mouvement et que c'était une révolution sociale et pas seulement un coup d'État militaire. Les militaires avaient beau dire « restez calme, restez chez vous » et avoir nommé Spinola, qui était quand même un ancien nazi, ce qui ne donnait pas une très bonne image du coup d'État. Ils avaient beau avoir masqué tout ce qui se passait. Finalement, entre le 25 avril et le 1er mai, comme on sait, ça a été un déferlement populaire absolument inouï. Pour moi, c'était retrouver mai 68 quelque part. Et ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que même après 40 ans de dictature, quand l'heure était venue, le peuple déferlait. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. C'est pour ça que j'ai écrit ensuite ce livre. Alors après, il y a des tas de raisons aussi. C'est que du coup, toute la gauche française s'est passionnée à chaque stade, hein, au moment où Spinola a été viré, au moment de Republica, au moment du Triumvirat, tout le monde était passionné. Il y avait un dessin de Vias qui était paru dans le Nouvel Observateur. C'est le portrait dessiné, joliment dessiné, de Rosa Luxembourg, de Marx, Lénine, Engels et Trotsky, qui se penchent sur un microscope, et sous le microscope, il y a la carte du Portugal. Savoir qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que c'est, toutes ces complications, 6 gouvernements provisoires, qu'est-ce que c'est que ces soulèvements ? En fait, il y a eu 18 fois mai 68. Hein. Et Marcel Lédiergang, qui était un autre correspondant du Monde, a dit « Les Portugais ont beaucoup à rattraper. Ils rattrapent à la fois 1789, 1936, 1968, 1917 et 1968. » Et c'était en fait ce qui m'a donc passionné. Et donc, j'ai participé à tous les débats et les débats sont devenus très âpres parce que ça posait des questions théoriques, pratiques, sur la nature des partis, la nature du salariat, la nature des pouvoirs, la lutte des classes elle-même, la situation internationale. Hein, nous étions quand même 6 ans après mai 68, mais seulement 6 mois après le coup d'État au Chili. Il y avait encore dans la mémoire les chars en Tchécoslovaquie. C'est pour ça qu'il y avait des menaces de coups de Prague d'un côté et de coups de Santiago de l'autre, et que toute la situation internationale se cristallisait dans la révolution portugaise. Vous pensez que pour moi, militant de 68, c'était un devoir d'étudier tout ça.
Et alors vous expliquez très bien dans votre ouvrage qu'il y a une origine corporatiste à l'indignation des capitaines d'avril. Expliquez-nous.
Oui, alors c'est une chose qu'en fouillant, hein, parce qu'il y a une quarantaine de livres qui ont été publiés, et puis moi je ne suis pas un expert, hein, je suis un chercheur militant. Et en cherchant, j'ai vu qu'il y avait une opposition entre les Purios et les Espurios, qui semble s'expliquer par le fait que quand le régime salazariste, qui n'arriverait jamais à gagner la guerre contre les colonies, a recruté des conscrits et les envoyer avec très peu de formation pour aider les militaires qui étaient déjà là-bas. Et le premier réflexe a été des officiers, des capitaines, a été corporatiste. Du genre, nous sommes formés, nous sommes bien payés. Cette guerre, on sait bien qu'on va avoir du mal à l'amener, mais on l'amène. Et on envoie des gens qui ne sont ni formés, ni bien payés, ni bien préparés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, il y a eu un conflit entre les Purios et les Espurios, les vrais militaires formés. Et finalement, je chercherai toujours cela. L'origine du MFA est plus corporatiste que ce qui a été cru. C'était pas forcément une origine politique lumineuse. C'était la défense de droits corporatistes par rapport à une armée qui était en dislocation et qui n'arrivait pas à gagner la guerre.
Et alors, vous avez parlé de Spinola comme un ancien nazi.
Oui, c'était un volontaire dans les troupes hitlériennes à l'Est pour combattre les bolcheviks. Hein. Quand même, tout le régime était orienté de cette façon-là et Spinola était un nazi, un combattant réel nazi, quoi, embauché dans les armées hitlériennes.
Or, il est considéré aujourd'hui comme un des héros de cette révolution.
Oui, il a joué à De Gaulle, oui. Mais enfin, ce n'était pas la culture initiale du personnage. Quoi. De la même façon que tout le régime était orienté de cette façon-là, hein, y compris l'Église l'était avec... fameuse Notre-Dame de Fatima, et puis la place blanche qui a même été créée par opposition à la place rouge. Donc en fait, c'était toute une orientation, toute une culture que le régime salazariste, et puis très brièvement Caetano, avait construite en liaison avec le fascisme de Franco, de Mussolini, et le fascisme tout court, tout en jouant un jeu prudent vis-à-vis des USA, de façon à ne pas se faire complètement renverser, et une forme fausse, vision de neutralité, mais enfin le camp était clair, c'était le camp du fascisme.
Oui, vous êtes très clair là-dessus aussi dans le livre. Cette dictature a été 48 années d'étouffoir, où la censure censurait tout, de Lénine, Staline à Racine.
Oui, c'est ça. Le censeur qui avait fait la liste de livres à interdire ne s'était pas arrêté. Il a vu Lénine, il a vu Staline, il a mis Racine. Ça, c'est une image du style abruti de la dictature de l'époque. Parce que, il y avait quand même, semble-t-il, à peu près 200 000 hommes sur un pays, à l'époque, de 8,5-9 millions d'habitants, quand même, c'est énorme, qui quadrillait la population. Si vous disiez quelque chose de travers dans un café, vous vous retrouviez embarqué facilement, quoi. Et le mouchardage était rémunéré. Donc toutes les dénonciations, tous les systèmes de délation ont existé pour encadrer une population et l'abrutir au sens strict, puisque il y avait si peu d'écoles qu'en fait le taux d'analphabétisme était considérable. Il y avait une telle prise de la religion, et la religion, il y avait très peu de, comment dirais-je, de libérateurs et d'aile gauche de la Révolution. Hein, c'était une église hyper conservatrice et réactionnaire. Et donc ensuite, après, un pouvoir des fortunes et des grosses fortunes, parce que quand même le Portugal avait l'homme le plus riche du monde. Il y avait les Grecs avaient Onassis, le Portugal avait Champalimo. Et donc, ils arrivaient à tirer tellement de l'exploitation du peuple qu'en fait, ils avaient les pouvoirs les plus concentrés, les plus réactionnaires. Et c'est dramatique. Surtout que Salazar, puis Caetano, appliquaient une économie qui aujourd'hui fait réfléchir. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient comme règle? C'était la règle d'or, Madame Merkel et de Monsieur Chabot. C'est-à-dire, c'était le principe qu'il ne devait pas y avoir ni dette ni déficit. Il ne devait pas manquer un escudo dans les caisses à la fin de l'année. Et ils ont imposé ce régime. Le gars se faisait appeler docteur. Son truc était de faire fonctionner le Portugal comme un ménage. Et on bouclait avant la fin de mois et on égorgeait tout ce qui dépassait, quoi. Et donc, il a fait de cette façon-là en 40 ans, ce qui prouve qu'il faut avoir des dettes et des déficits. Il a fait du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. C'est, évidemment, ils n'investissaient pas.
Et les guerres dans les colonies vidaient les caisses également.
Ben bien sûr. C'était impossible de faire face au développement des mouvements de libération nationale qu'il y avait. Ils étaient partout en Afrique. Bon, on est quand même dans les années 60. L'Algérie a gagné en 62. Et il fallait bien négocier partout les indépendances. Et là, le Portugal, à contrario du monde entier, résistait avec des méthodes d'une brutalité qui d'ailleurs générait une brutalité inverse de l'autre côté. La férocité de la dictature coloniale engendrait de l'autre côté une férocité du soulèvement et contre les colons.
Et alors on parle beaucoup du 25 avril 1974, mais il y a une autre date assez marquante pour d'autres raisons, qui est le 25 novembre 1975. Que s'est-il passé ce jour-là?
Alors c'est vrai que les dates sont faciles pour ceux qui veulent étudier la Révolution portugaise. C'est 25 avril 1974, c'est le coup d'État d'en haut, mais qui suscite immédiatement des centaines de milliers de manifestants et des grèves dans tout le pays qui veulent 6000 escudos. C'est le salaire minimum qui est revendiqué. Et pendant 18 mois, ce salaire va être revendiqué sans être satisfait. Et il va être question d'élections. Les élections vont être fixées au 25 avril 75, jour pour jour après le coup d'État. Et je dirais qu'il y avait des gens qui étaient adversaires de ces élections. Et puis ensuite, il y aura les élections législatives selon la Constitution qui aura été rédigée. Elles auront lieu le 25 avril 76. Et c'est aussi un 25 novembre que le tournant va se faire dans les rapports de force. En gros, dans toute révolution, il y a une période de montée des luttes. Et s'il n'y a pas de dénouement politique et d'issue suffisante pour l'ensemble du mouvement, eh ben, il y a un retournement. Et le retournement s'est fait le 25 novembre. C'est presque une situation inouïe, quoi. Vous avez un gouvernement et une assemblée constituante séquestrées. Les députés sont obligés de demander la permission aux manifestants pour sortir de chez eux, aller chercher des fringues prof et à manger. Le gouvernement séquestré ne peut plus donner aucun ordre, n'a plus aucun pouvoir, aucune possibilité d'action, au point qu'il se met en grève. Et alors, à ce moment-là, il faut un choix. Mais quel est le choix? Le choix va se faire étonnamment au sein du MFA. C'est en leur sein que va basculer à tour de rôle pendant 18 mois révolution et contre-révolution, avec des gens qui vont aller plus à gauche, des gens qui vont rester à droite, des officiers qui vont revenir des colonies, des influences tout à fait multiples qui vont venir de la société. Et le MFA va, à ce moment-là, avoir le choix. Est-ce qu'il décide de poursuivre en cause d'une prise de pouvoir, une transformation de la société, ou est-ce qu'il y a un retour en arrière, et puis un retour à une situation, j'allais dire, européenne, classique, quoi. C'est une contre-révolution. Certains l'ont appelé démocratique, mais contre-révolution, ça ne marche jamais avec le mot démocratique. Hein. Contre-révolution, c'est forcément anti-démocratique, et ça prépare des retours de moins en moins démocratiques. Celui qui l'a mené formellement était un cow-boy militaire du nom de James Neves. Et celui qui a cédé, c'était celui qui avait fini son corps défendant par être l'aile gauche du MFA, Otelo de Carvalho. On peut dire qu'au 25 novembre, quand le gouvernement était séquestré, Otelo de Carvalho devait diriger à peu près 90% de l'armée. Il avait le COPCON, qui étaient les troupes les plus avancées, les plus politiques, au service, comme il se disait, de la Révolution. Et James Neves devait avoir une espèce de troupe de mercenaires revenus des colonies et d'aile droite du MFA, d'officiers et tout. Et il est venu parce que, comme ça branlait dans le manche et qu'il n'y avait pas d'issue, il est venu menacer Othello de Coabello. Il a dit « Rends-toi, sinon je te tire dessus ». Et les 90% vont se rendre aux 10%. À tel point que les autres disent « Bon, bah, si c'est ça, plus d'autogestion dans les cavernes, hein, on ne fait plus la fête, on rétablit la discipline, on va bientôt supprimer le MFA, on en revient à des normes régulières, un gouvernement, une police, et on rétablit l'ordre, ce qu'ils vont faire à partir du 25 novembre. » Alors, est-ce que c'est une contre-révolution de velours ? Non, c'est une contre-révolution sous certaines formes brutales, c'est un coup de force dans l'autre sens. Est-ce que c'est le point culminant de la révolution ? J'ai tendance à dire que les hommes font tout le temps les circonstances, que les circonstances font les hommes. Dans le cas d'Othello de Carvalho, c'est les circonstances qui l'ont emporté. Hein. Ce n'est pas le caractère du personnage, ni le choix politique. C'est le comble du ridicule. Vous dirigez une armée, vous avez 90% du contrôle, vous pouvez faire un certain nombre de choix politiques et vous pouvez décider de quelque chose. Vous vous rendez à ceux qui sont l'extrême droite de votre armée, vous ne faites pas un geste, vous ne bougez pas. C'est vous dire s'il n'y avait pas de direction. Alors que pourtant, les masses, on ne pouvait pas dire qu'elles n'étaient pas soulevées. Hein, parce que ça bougeait dans les campagnes, il y avait des fermes qui étaient occupées, des grands domaines, le employé, les postes, les transports, tout ça était en plein mouvement. Et on a, je le répète, jamais vu un gouvernement séquestré qui se met en grève et qui dit « Bon, allez, stop, faites ce que vous voulez » et n'avoir pas de réponse. C'est ça qui est le plus terrible, mais c'est presque dans toutes les révolutions. Soit vous allez jusqu'au bout de la révolution, et vous transformez la société, vous mettez de nouvelles structures qui tiennent, soit vous ne le faites pas, et ils vous reprennent tout, toujours.
Et donc, considérez-vous que le 25 novembre a tué le 25 avril ? Que le 25 novembre est la mort du 25 avril ?
Vous savez, mai 68, il arrivait un peu la même chose, hein, quand De Gaulle est parti, puis on a dit « un vide du pouvoir ». Quand il a dit « on fait un référendum », puis personne ne voulait le référendum. C'est-à-dire, il y a des périodes dans toute révolution d'incertitude. Alors la question après, c'est à quel degré se fait la contre-révolution, c'est-à-dire se fait le recul. Alors, le 25 novembre, comme dans la dernière partie de mai 68, le recul s'est fait puissamment, mais pas au point de pouvoir gommer ce qu'avait été la force du mouvement antérieur. Hein, on a souvent dit que mai 68 avait duré des années, oui bien sûr, dans les consciences, dans l'histoire, dans la mobilisation, dans les revendications, dans les luttes, etc. Ben, c'est vrai aussi au Portugal, c'est-à-dire que comme il n'y a pas eu un écrasement, une contre-révolution dans le sang, tous ceux qui avaient les espoirs révolutionnaires les ont vécus déçus, ce fut une très grande tristesse, mais quand même, ils n'étaient pas écrasés, ils avaient gardé, donc je ne parle pas de mort, je parle d'inversion. La tendance à la victoire s'est inversée, mais il y a eu une résistance pendant des années encore. La preuve, c'est qu'en 76, aux législatives de 76, du 25 avril 76, il y a encore eu une majorité de gauche. Donc ça voulait dire qu'après 40 ans de dictature, la période d'expansion révolutionnaire, de culture révolutionnaire, d'apprentissage, d'élus, de libération collective, etc., a duré profondément au Portugal.
On va maintenant reculer un peu. Qu'est-ce qui nous a donc conduit à cette situation, à ce 25 novembre 1975 ?
Toujours dans les révolutions, le socialisme vient du ventre. 6000 escudos. Nous voulons du salaire. Nous voulons travailler mieux. Nous voulons plus les petits chefs qui nous commandaient, qui nous traitaient comme... Nous voulons plus les policiers. Les images, c'est celles du soulèvement et de la force du salariat. Comme dans toutes les révolutions, du cortège du salariat qui passe et que personne ne peut empêcher. Ça va se passer en juin 1974, ça va se repasser à l'automne 1974, ça va se repasser au printemps 1975, ça va se traduire dans les élections du 25 avril 1975, parce qu'il va y avoir une majorité à gauche, manifestement, PS. Vous vous rendez compte, pendant 40 ans, Racine, Staline et Lénine étaient interdits, et le premier vote qu'il y a pour une constituante, ça donne une majorité Parti Socialiste, Parti Communiste. C'est pas rien quand même comme événement quand même. Et c'est une leçon. C'est-à-dire que la puissance des idées traditionnelles du socialisme et du communisme l'emporte par-delà les dictatures et les décennies. Si vous voulez un cours d'optimisme, je vous le fais. Parce que c'est bien ce qui s'est produit. Tous ceux qui avaient sous-estimé, qui pensaient qu'un petit pays, un petit peuple dans un petit coin de l'Europe était définitivement rayé de la carte et incapable de se soulever, ont vu d'un seul coup déferler. Tous les manifestants, inlassablement, jamais courber l'échine, toujours revenir, toujours croire qu'ils allaient pouvoir emporter leurs 6000 escudos, leur réduction du temps de travail, une possibilité de vivre, la liberté, la démocratie. Même quand on va vouloir, et le MFA va vouloir, leur imposer un syndicat unique. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est toujours difficile de croire qu'il y a pu y avoir un débat entre unicité syndicale et unité syndicale. Unicité, ça voulait dire en fait un seul syndicat avec vertical, comme du temps de la dictature antérieure. Unité syndicale, ça veut dire un syndicat, évidemment, ça représente l'ensemble des salariés, il était normal qu'ils soient unis, mais avec le pluralisme à l'intérieur, la liberté, les votes, la démocratie, où on élit. Et bien vous avez eu là, en 75, fin 74 et 75, un débat sur unicité syndicale contre unité syndicale. Et le MFA, avec des apparences de gauche, a toujours été plutôt du mauvais côté. Il était pour unicité syndicale. C'est nous qui avons fait la révolution, on s'occupe de tout. Le Conseil de la Révolution dirige. Ils vont même imaginer, contre l'Assemblée des Constituantes, un pacte peuple-MFA qui disait qu'on ne tiendrait pas compte des élections. Vous vous rendez compte? Il va y avoir des élections, mais ils disent non, ça, les élections c'est bourgeois ça. Non, nous on est beaucoup plus révolutionnaires que les élections, donc on vous fait un pacte. Vous imaginez un peu la vision militaire qu'ils avaient en fait de l'encadrement du peuple. Et le MFA va faire à des moments donnés des séances de conscientisation du peuple. Comme si le peuple avait besoin d'être conscientisé par des militaires. D'ailleurs, ils avaient beaucoup de mal quand ils essayaient de le faire concrètement, parce qu'ils arrivaient et puis ils essayaient de dire ce qu'il fallait faire. Les gens les regardaient, enfin, ils savaient mieux qu'eux ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils avaient envie, ce qu'était leur boulot, comment ils voulaient être traités dans l'usine, comment ils voulaient être traités dans les champs. Et ils n'avaient pas besoin de la conscientisation venue par le MFA. Mais le MFA voulait tout à la fois, hein. Une conscientisation par le MFA et un pacte, le peuple MFA, qui passait par-dessus la constituante. Et c'est là qu'il fallait, il faut défendre les élections. Moi, mon souvenir, c'est que, comme militant de 68, c'est qu'avoir crié « élection, trahison », c'était pas un bon slogan. Il faut, quand on a un mouvement de masse, exiger des élections pour transformer le mouvement de masse en victoire électorale. Il faut pas dire les élections vont s'opposer à notre mouvement de masse. Et d'ailleurs, en France, vous avez eu un débat à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Libération, le journal Libération était à ses tout débuts. On est en 74. Et vous avez le directeur à l'époque, c'était Serge Julli, bien connu. Serge Julli était contre les élections. Il disait que non, ça allait embourgeoiser la révolution portugaise. Il écrivait ça dans Libération. Il soutenait le MFA. Et vous aviez quantité de gauchistes, de toutes sortes en France, qui soutenaient le MFA contre le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Le MFA a appelé à voter blanc, à ne pas voter à l'Assemblée constituante. Mais les gens ont voté. C'est la première fois depuis 40 ans que vous avez la possibilité de voter, ils n'allaient pas s'en priver. Même si des militaires apparemment sympathiques qui ne leur avaient pas tiré dessus et qui avaient accepté leurs œillets quelques temps plus tard ne leur demandaient de ne pas voter, ils ont voté. Et la majorité a été à gauche. Et ce qu'il faut ensuite tirer, c'est que la légitimité d'une élection, ça doit s'imposer. Il y avait une majorité PS-PC. Il fallait que la majorité gouverne. Je ne vois pas d'autre façon de faire. Vous votez, vous avez une assemblée constituante, il y a une majorité du Parti Socialiste et du Parti Communiste, il fallait qu'ils gouvernent. Or, des images qui, moi, me frappent aussi dans l'histoire de la Révolution portugaise, c'était Soares et Cunhal en avril 1974. Quand même, Soares arrive à la gare, c'est presque Lénine, quoi. Tout le monde vient de l'applaudir. Et Cunhal arrive, il monte sur un char, tout le monde l'applaudit. Et entre le 25 avril 1974 et le 1er mai 1974, ils vont être bras dessus, bras dessous. Personne n'a jamais pu compter combien il y avait de manifestants. Hein, parce que dans un pays de 9 millions d'habitants, il y a peut-être eu près d'un million, on ne sait pas, 500 000, 600 000, 700 000. Une conscientisation terrible. Et donc il y avait une possibilité de gouverner PSPC. Et le drame, ça c'est une autre leçon pour aujourd'hui. Quand on m'interviewe comme vous le faites, et je vous en remercie, et je suis tellement plongé dans un pays, dans une gauche, actuellement en 2024 en France, où il y a la division, que revenir sur la division au Portugal de l'année 75 me fait mal. Parce que je comprends trop bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire la querelle entre PS et PC qui est née à partir du 1er mai 75, disons pour la dater, a tragiquement divisé la révolution portugaise. Et à l'époque, s'affirmer les deux camps, ça a été terrible. Et en plus, ça s'est pris spectaculairement sur la presse, les médias. Parce que l'affaire Republica, qui n'est peut-être pas connue aujourd'hui, a fait le tour du monde à l'époque. C'était un journal, les ouvriers du livre se sont mis en mouvement, ils avaient leurs revendications légitimes. Mais ils sont passés de la revendication légitime d'ouvriers du livre, d'imprimeurs et de fabricants du livre Republica, à contrôleurs du contenu du journal. Alors là, c'était autre chose. Parce qu'il s'agissait de savoir quelle était l'organisation de la presse libre et démocratique. Et là, évidemment, c'était facile pour les directeurs de Républicains et leurs sympathisants de dire « Ah, c'est une atteinte à la liberté de la presse », et les autres de dire « Bah oui, mais enfin quand même, nous, on n'a pas suffisamment de place dans la presse ». C'est pour ça qu'il ne faut jamais, à mon avis, à partir de la Révolution portugaise, mais depuis beaucoup, vouloir interdire des secteurs de la presse. Il faut partager la presse, contrôler la presse, contrôler les propriétaires de la presse, imposer la non-concentration de la presse et faciliter des règlements dans les rédactions qui permettent à celle-ci de ne pas être dictatorialisée par le rédacteur-chef, si je peux me permettre. C'est-à-dire faire que ça soit la démocratie et le partage des opinions qui se fassent dans la presse, mais pas par coup de force, pas par coup d'État. Enfin, tout ça a commencé à affaiblir le mouvement, alors qu'une union l'aurait absolument permis de ne jamais être confronté au 25 novembre. Ça a affaibli le mouvement et ça l'a divisé dans son cœur. Et les tentatives finales, à la fin, il y a eu une tentative de fuir, de front d'unité révolutionnaire. C'était par l'extrême gauche qui avait beaucoup progressé dans toute l'écume de radicalisation précédente. Et le fuir, il excluait le PS quand on voulait faire un front d'unité révolutionnaire en excluant le parti majoritaire à l'Assemblée constituante. Dans un deuxième temps, le PC... qui avait participé au FUR, a critiqué, et bien le FUR a exclu le PC. Alors là, vous excluez 55% de la population et des électeurs. Donc le FUR a fini en autre boudin, si je peux me permettre. Et c'était inéluctable. La seule unité qu'il peut y avoir, c'est celle des partis traditionnels, ou plutôt des partis qui sont devenus traditionnels parce qu'ils ont eu la majorité des électeurs.
Quel enseignement, Gérard Filoche, quel est l'enseignement majeur à tirer de cette révolution des œillets ? Nous, aujourd'hui, en France, en avril 2024, où l'on constate que le PS ne veut pas parler à la France insoumise de Manuel Bompard, qui ne veut pas parler au PCF de Fabien Roussel, quand on voit la NUP divisée comme elle est, la gauche, plus globalement, la gauche française aussi divisée, quel enseignement a-t-on à tirer ?
La révolution portugaise, enseignement numéro un, ne jamais désespérer de la force du salariat. Tôt ou tard. Tôt ou tard, il déferle. Après 40 ans de dictature, le peuple portugais est sorti. Eh bien, après des décennies de libéralisme, le salariat français sortira. D'abord ça, ayez confiance, regardez ce qui est arrivé au Portugal après 40 ans de dictature et dites-vous que ça va arriver en France après des décennies de libéralisme. Il y aura un autre mai 68. Alors, deuxième chose, n'ayez jamais d'illusions sur des sauveurs d'en haut. Pas de sauveur d'en haut, pas de César, pas de Dieu, pas de tribun, pas de gourou, rien. C'est la force du salariat qui est déterminante. C'est pas les gens qui viennent, MFA ou autre chose, Othello de Carvalho et son cigare. Non, c'est pas, ça ne peut pas venir d'en haut. Exigez seulement des partis qui existent, des syndicats qui existent, des associations qui existent, qui émanent de la gauche et qui sont très pluriels. Ne clivez pas. A priori, au sein des partis, les réformistes et les révolutionnaires. J'ai entendu ça toute ma vie militante. Il faut cliver avec les réformistes. Non, au contraire, travaillez avec les réformistes. Aimez-vous avec les réformistes. Faites la course avec les réformistes. Faites le marathon tous ensemble, en une grosse cohorte pour démarrer le mouvement. Si les révolutionnaires sont bons, ils gagneront dans les derniers kilomètres. C'est pas la peine de vous autoproclamer révolutionnaire et plus gauche que moi tu meurs dans le démarrage de la course. Il faut être tous ensemble parce que sinon il n'y a pas de course, il n'y a pas de marathon. Il faut que tout le monde se retrouve comme dans l'intersyndicale pendant la période des retraites. Ne cherchez pas à cliver, cherchez à rassembler. Ne faites pas de préalable, cherchez ce qu'il y a de commun. 6 000 escudos ou bien le SMIC à 2 000 euros. Si vous êtes pour les 32 heures aujourd'hui en France, et si vous êtes pour la retraite à 60 ans, croyez-moi, c'est des mots d'ordre révolutionnaires par rapport à ce qu'on vit sous Macron. En soi, c'est des ruptures. Prenez les mots d'ordre qui sont communs et avancez sur cela. Et ça transformera les consciences, je l'ai vu en mai 68. Quand la porte s'ouvre, comme le 25 avril 74, ça déferle. Et donc, c'est la deuxième grande leçon. Ne séparez pas réformistes, révolutionnaires, ne partez pas des préjugés d'en haut. Sachez que le mouvement doit amalgamer. Le troisième point, c'est le programme. C'est-à-dire, le socialisme vient du ventre. Gardez les revendications essentielles. C'est certes, tout le monde a des divergences, non pas sur l'Ukraine. L'Ukraine, bah, toute la gauche est contre l'intervention de Poutine, elle est contre la guerre, elle est pour l'indépendance de l'Ukraine. Non pas sur Gaza. Toute la gauche est pour arrêter les bombardements, cesser le feu immédiat et deux États. Après, il y a des tas de façons de faire ça. Mais quand vous avez un accord là-dessus, scellez l'accord, vous n'êtes pas encore au pouvoir. Vous prendrez les mesures quand vous y serez. Donc gardez-vous pour l'essentiel. Des millions de gens dans ce pays, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent bouffer mieux. Ils veulent avoir un meilleur salaire. Ils veulent être moins exploités. Ils veulent être moins précaires. Ils veulent être moins miséreux, expulsés. Ils veulent des écoles dignes pour leurs enfants. Commencez par ça, ça, le social. La leçon, c'est ça. 6 000 escudos en France, c'est 2 000. Le SMIC à 2 000 euros tout de suite. Hein. Et commencez par ça, parce que là-dessus, en plus, il y a l'union. Vous voulez consolider l'union ? Prenez ces revendications. N'allez pas faire des débats. Oui, mais il y a 10 ans, t'as fait ça. Oui, mais il y a 25 ans, t'es. Oui, mais toi, t'es un ceci, toi, t'es cela, américain, ceci, cela, etc. Partez du puissant salariat qui est le nôtre. Et si on se comprend ça, qu'on a tous le même intérêt, qu'on a tous la même volonté, on est dans la même lutte, on a le même programme, et c'est la leçon qu'on doit sortir du Portugal pour ne pas connaître un 25 novembre. Pour ne pas connaître un 25 novembre. Pour avoir une solution le jour où on est en position de gagner.
Gérard Filoche, vous êtes de décembre 1945, vous aviez environ 30 ans, le 25 avril 1974. Vous devez assez bien vous en souvenir. Racontez-nous votre 25 avril 1974.
Je ne suis qu'un militant français. J'ai seulement un coup de fil de mon ami Pouchin qui me dit « ça bouge drôlement, ça y est, la dictature tombe ». Donc ça, je suis content que la dictature tombe. Le Portugal, je connaissais peu ou pas. Et je ne sais pas, le 25 avril 1974, que je vais passer 2 ans de ma vie à écrire des articles, à suivre cette révolution qui va me passionner. Et bien, quand j'étais cette période-là, c'était en mars 1975, j'étais un matin, place du Rossio, et je sors, j'ai pris un petit déjeuner, et j'ai vu Simone de Beauvoir, à Lisbonne. Elle était toute frêle, elle était bien âgée. Elle avait son assistante, et j'ai l'image gravée sur la rétine de Simone de Beauvoir. La place était pas occupée à ce moment-là, il y avait un peu de monde et tout, avec son assistante, marché place du Rossio. Et pour moi, qui avait donc 30 ans, bon, Simone de Beauvoir, c'était une héroïne, quoi. J'avais lu ses livres, c'était bon, j'étais tout ému de la voir là. Je n'ai pas vu Sarty est allé, hein, mais je n'ai vu qu'elle, mais... C'est l'image la plus fragile et la plus inscrite pour moi dans mes yeux.
Gérard Filoche, vous avez donc publié aux éditions Atlante, je répète ici le nom de votre livre, La Révolution des œillets, Portugal 1974. Un très beau livre, original par son contenu, je le disais au tout début, un livre très dense et très intéressant. Je conseille tous nos auditeurs et toutes nos auditrices à l'acheter et à le lire avec autant de passion que vous avez à nous raconter cette Révolution des œillets. Merci beaucoup Gérard Filoche.
C'est moi qui vous remercie.